Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Les autoportraits en cinéphile de Plan large, deuxième épisode, Jacques Doyon, avec aussi Ntebin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan large. Ce que je cherche en voyant un film, c'est cette intensité si forte qu'elle me donne l'impression que je vais mourir. Un film doit agir sur la sensibilité au point de nous clouer sur place, de nous mettre en danger de mort et nous tuer d'émotion. Quelle plus belle définition du rapport intime, intense, électrocutant, foudroyant même qu'on a parfois avec ces films qui nous accompagnent toujours depuis leur première découverte, qui nous ont changé à jamais, appris à vivre et à nous construire. Cette définition, elle est de Jacques Doyon et accompagnée l'édition du scénario d'un de ses plus beaux films, Le Petit Criminel. Ça fait plus de 45 ans depuis Les Doigts dans la tête, après l'an 01, que le cinéaste de l'exploration de la complexité des sentiments et de leur rapport au corps et au langage, quêteur inlassable de la justesse et de la vérité, de ce qui se joue de fragile et de fugace entre deux êtres, nous foudroie par ses plans-séquences, souvent en lieu clos, ses dialogues magnifiquement ciselé et sa direction d'acteurs si extraordinaire que ceux-ci donnent le sentiment rare de les voir inventer leurs paroles au fur et à mesure qu'ils les prononcent. Un artiste devenu plus rare aussi ces 20 dernières années car il a toujours refusé de jouer le jeu d'un système de financement rétif à la singularité de ses films. On se réjouit d'autant plus d'apprendre que celui qui est aussi un grand cinéaste de la jeunesse, de l'adolescence et de l'enfance est tourné entre deux confinements, 40 ans après La Drôlesse et 25 ans après Ponette, un nouveau film à hauteur d'enfant, CE2, un film dont il est en plein montage et on le remercie d'autant plus d'avoir accepté aujourd'hui dans Plan large de nous livrer quelques-uns de ses films qui l'obligeaient à s'asseoir au dernier rang des cinémas, au plus près de la sortie, si le film le transperçait et s'il lui restait des jambes pour s'enfuir et sauver sa peau. En fin d'émission, Ntebin nous parlera d'un film non moins fulgurant, longtemps invisible jusqu'à sa redécouverte sidérée par Martin Scorsese et Francis Ford Coppola au début des années 90, Soy Kuba de Mikhail Kalatozov, édité la semaine prochaine dans une somptueuse copie restaurée en Blu-ray et en DVD. Mais pour l'heure, retour à l'école.
On leur a dit qu'elle allait venir.
Comme il n'est pas sûr qu'elle vienne, on va commencer sans elle. Tu sais ce qu'on te reproche?
Non, mais de toute façon, je vais jamais me croire.
Claire dit que tu l'as entraînée derrière un escalier et que tu l'as embrassée. Et aussi que tu lui as soulevé sa robe et un peu plus.
Bah, si c'est que ça, alors c'est oui.
Parce que tu pensais à autre chose?
Je lui ai donné une petite gifle. Je l'ai tapé. Pas tapé. Je l'ai pas tapé.
Ça a pas l'air de t'inquiéter.
L'histoire de la robe. Je pouvais pas m'en empêcher. Je pensais qu'elle était d'accord.
J'étais pas d'accord, j'ai jamais été d'accord. Tu m'as touché l'intimité.
On dit que j'ai pas bien compris. J'en avais envie. Parce qu'elle est jolie, Claire. J'en ferais bien mon amoureux.
Tu m'as dit que j'étais moche comme une punaise et maintenant je suis jolie.
T'as pas trop cherché à t'échapper.
Quoi? J'ai crié et c'est toi qui es partie en courant.
Et moi je crois que t'étais d'accord. C'est Jacques qui m'a dit que je te plaisais bien.
J'ai jamais dit ça à Jacques.
Et à la cour de récréation, c'est toi qui es venu me chercher. Donc pour moi t'étais d'accord. Y'a qu'à la fin où t'étais plus trop d'accord. Mais au début tu m'as suivi.
Je t'ai suivi pour discuter mais pas pour que tu m'entraînes derrière les escaliers. Et hier t'as recommencé.
Ouais, hier j'ai enfin
fait. Se calme. Kevin, t'es en âge de comprendre que c'est des grosses bêtises, non? Et ces bêtises, ça va t'attirer de sérieux ennuis.
Je savais pas et j'ai fait le con, donc du coup, je savais pas.
Mais il va falloir que tu le comprennes. En attendant que je reparle avec les enseignants, t'es privé de récréation. Et je vais donner la consigne de faire en sorte que tu sois au plus loin de Claire pendant la classe et aussi pendant la cantine. On va te surveiller, mon garçon. Allez, retour en classe.
Retour en classe et retour à l'enfance pour vous, Jacques Doyon. Je l'ai dit en introduction, c'est un extrait, pour être précis, de la scène 11 du film que vous êtes en train de monter, CE2, un film que vous avez tourné Dans le Puy-de-Dôme, je crois, jusqu'à fin septembre. Alors, on l'aura compris dans cet extrait, il s'agit de harcèlement dans une école primaire entre deux enfants, Kevin et Claire. Vous connaissant, il s'agit certainement aussi de bien plus encore. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler ensemble quand le film sortira l'année prochaine et que les salles auront réouvert pour l'accueillir. Mais dites-nous en quelques mots, si vous voulez bien, Jacques Doyon, comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser à ce sujet ?
Oh, il y avait deux trois raisons. Bon, le harcèlement, c'est pas rien. Ce qui est aussi intéressant, c'est de faire un film à la fois sur la fille harcelée et sur le garçon harceleur, parce que on s'est depuis assez longtemps assez vite rendu compte que le plus souvent les enfants harceleurs étaient le plus souvent des enfants qui avaient été harcelés. L'autre raison était certainement que j'avais fait pas mal de films, enfin pas mal, pas suffisamment, mais pas mal de films avec des enfants de moins de 12-13 ans, 5-6 au moins, je crois, oui, au moins 6. Et puis à peu près le même nombre avec des adolescents de moins de 19 ans. Mais curieusement, du côté de 8 ans, j'étais pas trop allé. Là, je me suis dit que c'était grâce au harcèlement, ça allait être l'occasion rêvée. D'autant que le harcèlement dans le primaire est plus important, parfois moins dramatique dans ses conclusions que de le harcèlement dans le secondaire. Mais dans le primaire, c'est là où il sévit le plus fort. Voilà. Donc il y avait pas mal de raisons pour aller de ce côté, de cet âge-là. Donc l'enfance d'abord, et puis le harcèlement ensuite ou parallèlement, comme vous voulez.
Dans le texte de présentation de votre rétrospective à la Cinémathèque française, c'était en 2006, Alain Bergala émettait l'hypothèse que l'enfance est pour vous, je le cite, ce territoire où vous ne cessez de venir régénérer votre cinéma et votre rapport aux acteurs. Est-ce que c'est ainsi que vous le vivez, Jacques Doyon ?
Oh, ça me paraît à la fois bien écrit et en même temps, en simplifiant, je pourrais dire que en ayant fait une demi-douzaine de films avec des enfants et aussi avec des adolescents, un peu plus, je n'ai jamais eu d'accident, mais la surprise, l'émotion, le plaisir à tourner, à travailler avec eux, a toujours été grand. Donc, je m'étonne même quand 6 ou 12, si on, une douzaine de films, si on va jusqu'à la fin de l'adolescence, je m'étonne même qu'il n'y ait pas eu d'accident. Curieusement, il n'y en a jamais eu. Alors, tant qu'il n'y en aura pas, et tant que je serai encore en vie, j'essaierai de retourner, tant que surtout, je trouverai quelques sous pour continuer à faire des films, parce que parfois on me demande, mais alors, vous avez arrêté, là, maintenant, depuis 4 ans, vous ne tournez plus. Oui, ben, depuis 4 ans, j'ai présenté 2 scripts qui n'ont pas trouvé d'argent. Donc, je ne faisais qu'une chose, c'est faire un film tous les 8 mois, tous les 10 mois, tous les ans ou plus, mais ne pas tourner est un cauchemar.
Vous avez tourné, c'est déjà un grand bonheur pour nous. On va parler tout à l'heure avec un des films que vous avez choisi, un film magnifique, je ne dis pas encore lequel, de ces acteurs extraordinaires, mais dont la direction demande quand même art et doigté, que sont les enfants. Mais pour l'heure, si vous voulez bien, on va s'intéresser à l'enfant spectateur que vous avez été. Oui.
Claude ! Claude, où es-tu? Nous voilà tout seuls, Claude. Rien que toi et moi.
La cuisse? Je suis blessé. Viens, Link, viens à mon secours.
Voilà le moment, Claude. Le moment que tu as guetté toute ta vie. À présent, ça y est. T'as toujours su que cette heure viendrait.
Il faut que tu viennes à mon secours.
Ah. Comment tu penses qu'on en est arrivé là?
Est-ce que tu viens, Link?
Pardon à nos auditrices et auditeurs puristes, c'est pas souvent, pour ainsi dire jamais, que nous passons des extraits de films étrangers en version française dans Plan Large, mais je pense que L'Homme de l'Ouest d'Anthony Mann, puisque c'est de lui qu'il s'agit, vous l'avez découvert comme ça, Jacques Doyon, avec Jean Martinelli qui faisait la voix de Gary Cooper face à Marcel Bozzuffi dans le rôle du frère ennemi joué par John Denner dans ce très shakespearien duel à la fin du film. C'est un film que vous avez découvert, comme beaucoup d'autres, dans des salles aujourd'hui disparues. Vous alliez, je crois, tous les jeudis après-midi avec votre mère entre vos 6 et 10 ans, Jacques Doyon.
Absolument, j'ai dû voir comme c'était tous les jeudis, pendant tout le temps du primaire, ça veut dire au moins 200 films vus, si je calcule pas trop mal. Et sur les 200 films vus, il y avait au moins 150 westerns. Le culte aujourd'hui, c'est le sentiment d'avoir vu toujours Gary Cooper. C'est comme si Gary Cooper avait tourné 150 westerns. et j'ai totalement oublié les John Wayne, les Gregory Peck, les James Stewart, c'est pas rien. Tous ces grands gaillards, parce que tous flirtaient avec le Mercator à 10 opus. Et je ne vois que Gary Cooper. Comme dans la chanson de Boris Vian, et effectivement, et on était comme dans la chanson de Boris Vian, c'est-à-dire que c'était guignol, c'est-à-dire que on ne cessait de dialoguer avec le héros, donc pour moi Gary Cooper, je vous ai oublié, injustement, on cessait de dialoguer avec eux pour les prévenir que il y avait des méchants qui étaient en train de les contourner et qui risquaient de les leur tirer dans le dos. Donc c'était des salles très vivantes. Voilà. On ne mangeait pas, mais on conseillait vivement, on était des conseillers de Gary Cooper. On était des centaines de milliers, de millions, j'imagine, dans le monde, à conseiller cet homme et d'autres, évidemment. Mais oui, donc je viens de là. Peut-être que ça ne se sent pas dans mes films, mais si des critiques très avisées réfléchissaient très fort, je pense qu'ils trouveraient certainement des éléments de jonction possible entre tous ces films que j'ai vus. Mais à ce moment-là, les westerns, c'était Gary Cooper, c'était donc éventuellement Gregory Peck, Stewart et les autres, mais il n'était pas question d'Anthony Mann, de Walsh, de Sinman, d'Aldrich ou d'autres. On ne savait pas qu'il y avait quelqu'un derrière, on ne savait pas comment les films se faisaient, on n'avait aucune idée de ça, et on ne se posait pas la question d'ailleurs.
Et pourtant, vous dites que les critiques devraient se pencher sur la question, mais vous-même, vous l'avez fait. Dans le texte qui accompagnait justement le scénario du Petit Criminel, dont je parlais tout à l'heure, vous avez écrit « Le cinéma de Gary Cooper, c'est ce que je continue de faire ».
Ah, grand Dieu, j'ai écrit ça.
Ouais, ben je peux même continuer à vous citer. Vous avez écrit cette chose qui n'est pas fabriquée, sans trop de mise en scène visible, sans parti pris esthétique trop marqué, en fait, sans met à distance tout ce qui éloigne.
Oui, certainement. C'est peut-être pour ça aussi que nous avons tout à l'heure peut-être parlé, pardon de dire maintenant, d'un film de Mizoguchi, mais voilà, une mise en scène éblouissante. Qui est à peine visible si on n'est pas très attentif, c'est insensé. On est tellement habitué aujourd'hui à voir des metteurs en scène qui, pour qu'on puisse parler d'eux, ont montré, aujourd'hui je ne sais plus si c'est vrai, enfin j'allais au cinéma de temps en temps, mais comme vous l'avez si bien dit, les salles de cinéma me font peur. Voilà. Donc, voilà. Mais là, les metteurs en scène ne cherchaient pas à se mettre en lumière, ils cherchaient à mettre l'action, les acteurs, les personnages en scène, mais eux essayaient de ne pas se montrer. D'ailleurs, on se rend compte aujourd'hui qu'on ne les entendait pas. Enfin, il y a très peu d'interviews des plus grands metteurs en scène, alors qu'il y en a des centaines avec les cinéastes les moins importants aujourd'hui.
Je
Bien, me voilà, Mizoguchi, Jacques Doyon, ce sont les contes de la lune vague après la pluie. On avait longuement parlé de Mizoguchi en début d'année dans Plan Large. Et je vous avais cité, là encore, Jacques Doyon, puisque dans une édition DVD de ce film, vous y étiez et vous disiez « La lumière dans le cinéma de Mizoguchi donne à la fois le sentiment de la réalité et d'un au-delà de la réalité. »
Oh, oui, j'étais... Pour être clair, j'étais assez peu content d'avoir écrit si vite des choses aussi plates sur Mizoguchi, parce que s'il fallait stupidement en garder un seul là, sur la célèbre île déserte, je me demande si ce n'est pas celui-ci que je choisirais, tellement je suis amoureux de ce film et en même temps... tellement, je me dis comment est-ce possible quand on voit ces 5-6 dernières années, quand on voit le nombre de films admirables faits, on se dit mais comment est-ce possible, voilà. Et c'est possible puisqu'on a tous ces films que l'on peut voir et revoir. Et curieusement, lui aussi, alors, immense cinéaste, mais on parle tellement plus d'autres cinéastes que de lui, que de temps en temps ça me chiffonne un peu, voilà, parce que alors là tout est absolument parfait, je veux dire, si on pense à la direction d'acteur, si on pense à l'esthétique de scène du lac et pas seulement, enfin tout est au-delà de la perfection. Donc on se demande comment c'est possible, sachant que tout de même, les films, c'est quelques semaines de tournage. Donc on est plus près de l'esquisse, tout de même, on est plus près de quelque chose qui a à voir avec pas du tout la peinture à l'huile, mais plutôt la peinture à l'eau, comme disait Bobby Lapointe. Mais on est si près du brouillon, on essaie de faire le brouillon le plus solide possible, mais ça brouillonne quand même beaucoup. Et lui, alors je ne sais pas, il n'avait pas 3 mois de tournage, il n'avait pas 6 mois de tournage. Comment faisait-il? Enfin, on a envie de lui demander de sortir un instant de sa tombe et de venir nous chuchoter quelques conseils. Comment faisait-il? Je ne comprends toujours pas.
Mais quand vous voyez et que vous revoyez, parce que je suppose que vous les revoyez parfois en DVD, par exemple, est-ce que ces films, précisément, vous les regardez en vous demandant comment c'est fait ou vous abandonnez complètement à votre expérience de spectateur?
Oh, c'est entre les deux, parce que comme j'ai du mal avec la salle, je vois ça sur mon ordinateur, j'ai un écran de télévision chez moi, mais qui est tout petit, habitué au montage, avoir monté pas mal de films finalement sur ces petits écrans, donc j'ai l'impression de mieux voir quand c'est petit que quand c'est à ce point aussi grand, ce qui fait que je ne sais pas comment je les vois. Je sais que à la fois comme spectateur et comme cinéaste, je suis juste admiratif constamment. Et j'aimerais le surprendre un jour. je ne crois pas que ce soit le titre, mais le titre est assez beau d'ailleurs. Il compte dans une vague après la pluie, mais. Là, tout est tellement imparable, c'est au-delà d'impeccable, c'est absolument magnifique. Donc je dirais, voilà, quand c'est pas aussi simple que ça, mais si je voulais me dire, tiens, quand ça va pas si fort que ça, ça serait peut-être pas mal de regarder un film de Mizoguchi, voilà. Et après, on ne peut plus rien voir. J'avais programmé il y a 2 soirs de voir 2 films, dont un film de Mizoguchi. J'ai commencé évidemment par Mizoguchi, je n'ai pas pu voir le second. Et j'ai dormi paisiblement. Donc c'est formidable, Mizoguchi, oui, absolument.
Le gardien-chef et le sergent dormaient au premier étage. caporal au rez-de-chaussée, près de la porte dont il avait la clé. Cette porte restait fermée durant la nuit. J'envisageais tout ce qui était faisable et même ce qui ne l'était pas. J'échafaudais 1000 plans, je n'arrivais à rien.
Lisez et priez, Dieu vous sauvera.
Il nous sauvera si nous y mettons du nom.
Vous ne priez jamais.
Ça m'arrive.
Quand les choses vont mal.
Oui.
C'est commode.
Trop commode. Ce serait trop commode si Dieu se chargeait de tout.
Vous savez, Fontaine, que vous êtes le seul ici qui pense à s'évader. Le seul parce que c'est impossible.
Emmène-moi.
Un prisonnier qui échafaude 1000 plans pour s'évader, évasion impossible, et pourtant il y arrivera par ingéniosité, par ténacité, c'est évidemment un condamné à mort, s'est échappé, ou, deuxième titre, Le vent souffle où il veut, de Robert Bresson, on est en 1956, c'est un film que vous avez découvert au ciné-club du lycée, je crois, oui. Jacques Doyon.
Oui, absolument, et un peu plus tôt, alors, on va parler du danger de mort, que constitue le cinéma, le cinéma des autres, pour moi, qu'on ne se pas réussi. Mais j'avais vu sa Jeanne d'Arc, et je me souviens ne pas... C'était nerveux, n'est pas faillite que ça. Mais je me souviens ne pas avoir réussi à me lever. Donc tout le monde quittait la salle, les lycéens et les étudiants de cette classe de préparation à l'idée que je trouvais au lycée Voltaire. Moi, j'étais juste un lycéen, médiocre d'ailleurs. Et tout le monde commençait à partir et j'étais le seul qui ne pouvait pas partir. Le Bresson avait failli me tuer. Et je me suis relevé, mais péniblement. Alors, c'est tout le formidable de ce film-là, mais encore plus peut-être du Conte de la mort s'échapper, parce que là, autant en revoyant Jeanne d'Arc, tous ces gros plans-là. Je ne veux pas dire mal de Bresson, évidemment, mais c'est plus facile pour moi de dire tout est bien, je pense, de Pickpocket, d'un coin d'amour s'échapper, de Mouchette et d'autres films, parce que là, par exemple, dans ce coin d'amour, il n'y a pas le moindre creux, tout est tenu à un point presque inimaginable. On est sur la crête de la vague. Tout du long. Alors, quand je dis qu'il n'y a pas de creux, on pourrait penser que c'est ennuyeux comme une mer d'huile. Pas du tout. C'est vivant. Et le surprenant aussi, c'est que on est, il y a une espèce de, pas une espèce, c'est un suspense inouï, tout du long. Alors que le titre, on nous dit déjà qu'on n'a pas à s'inquiéter, que le policier va s'échapper. Et s'il s'échappe, certainement que ça va bien se passer pour lui. Enfin, on ne sait pas. Il faudra un deuxième film pour montrer la suite d'eux, mais la question n'est pas là. Donc, malgré le titre qui nous dit, voilà, le suspense, il n'y en aura pas, ben, vous êtes tenu, comme le film est tenu là, d'une main de maître, et là, à nouveau, nous avons affaire à un maître. Là, il n'y a pas que de Lucie, il y a aussi Bresson, ils ne sont pas très nombreux.
Alors, c'est une expérience d'autant plus étonnante de le revoir maintenant que c'est aussi une histoire de confinement, cette histoire, oui. Fatalement, puisqu'il est en prison et que tout se passe dans un lieu clos. Et ceci dit, quand on repense à votre filmographie, beaucoup de films chez vous se passent dans des lieux clos. Et j'imagine que ce n'est pas uniquement pour des questions financières, Jacques Doyon.
C'est aussi pour les questions financières, mais... Dans nos vies, dans la vôtre certainement, dans la mienne à coup sûr, ma vie s'est passée où ? C'est pas passé sur les grands boulevards, et c'est pas passé dans je ne sais quel désert, dans je ne sais quel bord de mer, je ne sais quel bord de plage, et c'est passé entre des chambres, des cuisines, des salons, mais c'est passé à l'intérieur d'eux, c'est là où ça se joue. Donc je ne vois pas pourquoi, sachant que ça se joue là, je suis m'amusé à sortir dehors pour faire plaisir aux producteurs, aux acteurs qui ont envie de prendre l'air. Moi, j'ai jamais envie de prendre l'air, de toute façon, mes têtes sont fermées, et je ne vois pas pourquoi il faudrait aller. Alors, aujourd'hui, on les ouvre à cause de cette saloperie de confinement. Bon, il paraît que c'est très simple pour nous. Moi, en Normandie, je ne vois rien. Alors, la monteuse m'oblige à ouvrir une porte de temps en temps, Je me dis que je vais ramasser une pneumonie, je ne vais pas mourir de cette saloperie de Covid, mais d'une pneumonie. Mais non, pas d'air. Ne respirons pas. Contentons-nous de nous accrocher à tous ces films qui nous éblouissent. Absolument.
Et puis, il y a aussi peut-être un point commun entre Robert Bresson et vous, Jacques Doyon, c'est le goût des acteurs non professionnels. Alors, systématique chez Robert Bresson, plus épisodique chez vous, puisque vous tournez aussi avec des acteurs très, très confirmés. Mais qu'est-ce que vous cherchez, vous, quand vous allez chercher des nouveaux visages? Est-ce que vous cherchez des modèles comme Bresson?
Non, c'est pas des modèles, c'est des... Ce qui m'intéresse, c'est pas tellement... Alors, c'est un virtuose. Donc si on a besoin d'une virtuose, on va taper à la porte d'Isabelle Huppert, elle a tout à fait raison, et pas seulement à la sienne. Mais c'est la personne qui m'intéresse, c'est la personne avec les petits machins que j'ai écrits. Voilà. S'il y a un rapport, si cette personne me plaît, et si elle n'est pas sans rapport avec ce que je viens d'écrire, pourquoi j'irais chercher quelqu'un d'autre? Alors, quel est jouer, pas jouer, que ce soit sur un conservatoire ou non, ça m'intéresse strictement pas, sauf si tout à coup, là, il y a une émission formidable devant la caméra. Mais même quand il y a une émission, en travaillant un peu, en se frottant un peu les uns les autres, finalement, l'émission a pu être un fiche le camp. Je veux dire, le garçon du petit criminel, Gérald Thomassin, disparu, on va dire. La première fois que j'ai fait des essais avec lui, il était incapable de se lever, il était violet, il n'y arrivait pas. Et le producteur m'a dit, mais tu n'y penses pas. Et au bout de 3 mois, ce garçon avait retrouvé ce qu'il était, et devant la caméra, il était celui que je connaissais. Donc voilà, c'est un peu de temps, c'est un peu plus de temps, éventuellement, pas toujours d'ailleurs. Mais donc voilà, si cette personne me plaît, j'ai envie de lui tirer le portrait en quelque sorte. Si elle me plaît guère, qu'est-ce que je ferais avec? Qu'est-ce que je pourrais faire?
Ah bah c'est pas trop tôt.
Tu es drôle toi, mets-toi à ma place.
À notre place.
À ma place, à notre place. Et la mienne alors?
Oh toi alors, tu n'as pas de plainte, tu es comblé?
Ah ça, pour être comblé, je suis comblé. Non, je t'ai plus, c'est trop.
Écoute Michel, il faut en finir. Moi j'aime les situations nettes. On ne veut plus disputer. Même si j'étais trop, je serais prête à partir.
Non, c'est moi qui suis trop.
Dans 5 minutes, je vais me retrouver seule. Écoutez, c'est bien simple. Je choisirai celle qui m'aura attendu.
Michel, on ne plaisante pas. On te parle sérieusement.
Je pars demain, moi. Pour longtemps. C'est tout. Le reste?
Mais je t'aime, moi, Michel.
Mais je t'aime, moi, Michel. Je t'aime. C'est tout ce que vous savez dire. Ne marre pas, je t'interdis de te marier. On dirait 2 midinettes avec vos histoires. Il y a quand même des choses plus importantes, non?
Remets en marche, sinon tu vas rater le bateau.
Je m'en fous! Il m'attendra! Moi j'ai le temps! C'est pas un jour près!
Et le bateau que doit prendre Michel, c'est celui qui l'amènera en Algérie, où l'attend le service militaire et la guerre du même nom. Nous sommes en 1960 et c'est le merveilleux, presque magique, Adieu Philippines de Jacques Rosier, film exemplaire de la nouvelle vague et pourtant sorti trop tard en 1963 pour bénéficier d'une vague qui était déjà descendante. Rosier a toujours pris son temps, pour notre bonheur de spectateur aussi. Rosier, génie du bricolage cinématographique, Jacques Doyon.
Oui, c'est pas un film de maître, mais c'est un film tellement rassurant, surtout à ce moment-là. Alors, je vais essayer de dire un peu pourquoi, si j'y arrive. Mais pour moi, qui qui se finit dans le 20e et qui, avec des parents qui n'avaient pas leur certificat d'études, c'est un film rassurant parce que à la fois le personnage principal et ses copains et ses copines ont pas d'accent des acteurs qu'on entendait à cette époque toujours. Donc de savoir que le personnage principal est un machiniste qui parle avec j'allais dire les mots, l'accent, je sais pas si c'est parisien ou la banlieue de l'époque, peu importe, ben ça c'était pas rien pour moi. Et puis aussi, surtout peut-être, il me semblait, alors ça, certains films de Godard, certains films de Rivette encore plus, me l'ont confirmé, que on pouvait faire, que le cinéma était ouvert, voilà, qu'il n'appartenait pas à une classe, à une caste. Mais que si avec les trois sous qu'on pouvait trouver, si on avait décidé un jour de faire un film, ce qui n'était pas du tout mon cas encore en 1963, ça me paraissait d'une vanité, d'une ambitieux inimaginable. J'étais dans le lycée où il y avait la classe de préparation à l'IDEC, pas un seul instant je n'ai pensé tenter de faire une classe de préparation à l'IDEC parce que ça me semblait absolument absurde. Je pense que j'aurais tué mon père en lui annonçant, mais il a fallu, en lui annonçant que je voulais faire la passion intellectuelle, mais enfin, il a fallu que j'en ai l'idée, et l'idée, je ne l'avais pas. Mais le film de Rosier a dû travailler, pendant quelques années, parce qu'à un certain moment, je me suis dit que le bricolage, j'avais peut-être droit comme Rosier. Et donc, du premier, qui était le film de GB, L'an 01, au second, qui est fait avec trois sous, enfin, dans les conditions bien plus économiques encore que le film de Rosier, parce que là, il y a une chambre, et en gros, on n'en sort pas. Je pense que Rosier m'a aidé à faire, sans aucun doute, à la réflexion, mais il y a à faire Les Doigts dans la Tête et La Tourlesse et les films qui sont venus après et qui sont souvent des films vraiment de trois sous.
Je voudrais vous livrer une réflexion de Jacques Rosier au moment où le film sort. On est en 1962, alors il va sortir juste après, c'est dans la revue Art, et il va dire « Pourquoi gâcher de la pellicule à tourner un film que l'on voit si bien sur le papier, si ce n'est pas pour se surprendre soi-même, à quoi bon faire du cinéma ?» Alors là encore, malgré le soin Absolument. Que vous apportez à écrire vos scénarios, vous pourriez le dire, ça, Jacques Doyon.
Ah oui, parce qu'il y a, je vois trop, et là, je dirais, je me tromperais assez peu, je pourrais gagner beaucoup d'argent en pariant là-dessus, je vois trop des films qui sont des exécutions. J'ai créé un scénario, on a fait des petits dessins, on a rassuré tout le monde, on a ces 824 plans, on en fera peut-être 826, mais voilà, c'est une exécution. Alors, qu'est-ce que ça doit être emmerdant? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie de film, il n'y a pas de... l'idée que le film, on sait tout du film avant même de l'avoir tourné, est un avis quasi général et d'une absurdité totale. Donc, s'il n'y a pas de vie de film, de tournage de film, il n'y a pas de film. Je veux dire, moi, je ne peux pas m'imaginer autrement que comme un peintre, un photographe, enfin, quelqu'un qui sort dehors et qui va et qui ne sait pas très bien ce qu'une scène, même écrite, revue, corrigée, raturée, etc. Qu'est-ce qu'elle cache, cette scène? Qu'est-ce qu'elle va nous donner? Ben, on n'en sait rien. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va nous donner autre chose que ce qu'on imaginait, puisque, en gros, je n'imagine rien. C'est-à-dire que quand j'écris, je ne vois rien. J'entends, je suis comme quelqu'un qui colle son oreille à la porte pour entendre ce que se disent les voisins, mais je ne vois rien et je ne veux rien voir. Donc, quand j'arrive sur le tournage, je ne sais pas, je sais à peu près quel décor, mais je ne sais pas plus que ça. Je sais, je suis rassuré par le fait que les comédiens, les acteurs connaissent le texte, mais moi, je ne sais rien de ce que je veux faire. Donc ça paraît très angoissant, et pour un type très angoissé, c'est finalement supportable. Je pense que moins angoissé que moi, je ne le supporterai pas. Mais moi, je le supporterai bien, et on peut se dire, commençons à travailler, commençons à chercher, sachant très bien que les 4, 5, 6 premières prises, C'est le début du chemin qui nous mènera à coups de machette vers la clairière où tout à coup le soleil apparaîtra. Enfin, c'est un machin comme ça. Mais donc, ce qui explique les 12 prises, les 18 prises, les 26 prises, de temps en temps, la folie, je suis arrivé deux fois sans prise, et je dis ça pour bien vous rendre compte que je suis un type ridicule de temps en temps, parce que quand on arrive à 100 prises, c'est qu'on est un crétin pas tenté. Bon, mais je ne suis pas toujours arrivé jusqu'à 100 prises, je suis arrivé deux fois seulement, donc je n'ai pas été un crétin constamment. Mais trintignant en me disant sur un film de... c'était... oui, ce très joli texte de Sarraute pour un oui ou pour un non, que nous avons tourné en une dizaine de jours à toute vitesse avec lui et avec André Dusselier. Trintignant, qui est très drôle, comme tout le monde sait, dit, mais je n'ai pas le souvenir d'avoir tourné avec quelqu'un qui faisait autant de prises. Alors, il m'a dit, si, bien sûr, si Franju, mais Franju, c'est pour un problème technique, pas à cause de nous. À cause de nous comédiens. Alors, bon, voilà. Donc, j'avais cette mauvaise réputation-là. Je l'ai un peu moins maintenant parce que je tourne avec deux caméras plus souvent. Puis j'ai encore moins d'argent. Et donc, je fais plutôt 10, 12, 14 prises et je ne vais plus jusqu'à 20, 26. Là, ça m'est tout à fait interdit. C'est une prise. Et t'as trouvé à chercher. Les mots, on peut en faire un peu ce qu'on veut. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire de ces mots? Qu'est-ce qu'on va faire avec ces acteurs-là, avec ces personnes-là, et ensemble, qu'est-ce qu'on va trouver, qu'est-ce qu'on va s'amuser à trouver ensemble? Mais si c'est « je sais tout et je le fais », quel emmerdement. René Clair le disait très bien d'ailleurs. J'ai dit un texte de René Clair un jour en disant « je sais tout, donc que ce soit le tournage, perte de temps, quel emmerdement ». Voilà. Peut-être qu'il ne disait pas emmerdement. Enfin, voilà. C'était cette signification. Moi, je ne sais rien. Donc, tout est là, possible. Tout est possible ce soir-là.
Moscow, theater where the rats love to go to see Sonia, the cutie of the burlesque direction. All the commies love her to the very last man. They think it even better than the 5 years plan.
Come on, what? Dickie. Come on. Now listen. Get the picture. Stand up there.
Right, this is a fine impression. Going back to the lady, huh?
Stand up there. Listen. Get the picture.
Boy, this is ridiculous.
Now look, we're gonna do it if my
All right.
doesn't give out. Are you ready? Now get the picture. Pinpoint spot.
I got the picture.
Got it?
I got it.
Got
I it.
Tails. Got it?
Achtung! Right turn!
Right turn!
Right turn!
Shoulders back!
And I'm supposed to act like it's all a big mistake.
It's wonderful. You're wonderful. You're great. And now, if you'll excuse me, I'm going into the boudoir to change into something more comfortable. Don't worry. You shall feel many guilts, but remain pure.
C'est Jenna Rollands qui chantait le strip polka de Johnny Mercer devant ses invités Dickie et Freddy, John Marley et Fred Draper. C'est Faces de John Cassavetes en 1969. Alors vous qui aimez les acteurs, j'imagine que devant un film de Cassavetes, vous êtes en joie, Jacques Doyon.
Et oui, c'est la grande question, c'est la question de l'interprétation, bien sûr. Alors, sur comment c'est filmé, il y a plus costaud que Cassavetes ou Cassavetes ou comme vous dites, mais sur la liberté, sur la fantaisie de l'interprétation, c'est un sommet, absolument. Alors, on suppose que ça doit improviser pas mal, mais c'est un peu ce qu'on se dit, comment allons-nous faire ensemble? Comment ils ont fait ensemble cela? On suppose que ça a improvisé pas mal, on suppose que mais que ça devait donner pas mal d'indications en face aussi. Et c'est pas seulement Gerard Worms, c'est tous y vont, tous sont courageux, tous foncent, j'ai envie de dire, pour simplement lui faire plaisir à ce John qui a l'air si sympathique, et pour le faire sourire, lui qui a le sourire si facile. Mais cette fantaisie, cette ardeur qu'il donne, qu'il lui donne, qu'il nous donne, elle est incroyable. Et comment ça arrive, en le revoyant, je repensais à l'enfant que j'ai, au plus petit, qui a bientôt 5 ans, et ça ne cesse de rire et de pleurer, ce film, un peu comme mon fils, ça gifle un peu plus qu'avec mon fils, ça cogne tout autant, c'est une vraie partie de billard, c'est absolument formidable, ça se frôle, mais ça se cogne encore plus souvent, mais c'est vraiment, ce mec est tout près de l'enfant, du fonctionnement de l'enfant. Donc de l'enfance, donc on n'est pas très loin peut-être des films que je tente parfois de faire. Donc c'est pas un cinéma encore bien éduqué. Ça semble être un cinéma qui n'est pas fini. Mais quel bonheur de voir ce cinéma qui n'est pas fini. Alors bon, il y a de temps en temps, c'est un peu parfumé à l'alcool. Je suppose que c'est pas un cinéma qui semble très sobre. Hein. On est loin de Bresson et de Le Terrier. Mais il n'empêche que qu'est-ce que ça sent bon, cet alcool-là. Voilà.
В темноте я замечаю чей-то чемодан. Открываю, что я вижу, Пинку и Нахан.
Валерка, чё?
Чё?
Только по-честному. Если бы я сюда не приехала, ты бы вернулся домой?
Если по-честному, Галка, я бы приехал. Я всё время хотел домой. Но они меня сходу так облапошили.
Ты воровал?
Кто я? Воровал. Один раз меня Слон в фоточку запихнул.
Почему его зовут Слон?
Это так расшифруется. С малых лет одни несчастья.
Да, но с малых пишется раздельно. Или это не в счет?
Да пошел, знаешь куда? Вместе раздельно. Я вообще не хочу не слушать.
Завязал?
Завязал, наглухо.
Побожись.
На вот, приложись.
Держи 5. А, ты дурак? Зачем так больно-то? А если я тебе так сделаю?
Извини, Галка, я это от души. Этот поезд оборвался прямо на Москву.
Отстань,
ну! Я лежу на верхней полке и кого-то сплю. В темноте я
замечаю... Кончай ночевать, выходи строиться. Поезд дальше не идет. Пойдете пешком по шпалам. До Сучана недалеко.
Vous écoutez France Culture, Plan Large avec Jacques Doyon et c'est le dernier film que vous avez choisi pour cette émission. Jacques Doyon, évidemment, il aurait pu y en avoir beaucoup d'autres. Un film qui a fasciné tous ceux qui l'ont découvert au Festival de Cannes, c'était en 1990. Il en était reparti avec la caméra d'or, c'est Bouge pas, meurt, ressuscite. Un film toujours aussi magnifique 30 ans après, et qui est comme un héritier des grands classiques soviétiques du genre, comme L'enfance d'Ivan de Tarkovsky. Pourquoi ce film vous a autant touché, Jacques Doyon ?
Oh, il est d'une vérité, d'une beauté, d'une violence. Tout à coup, je pense, alors que je n'ai jamais fait de rapport à Dostoïevski, mais c'est... il est d'une sauvagerie qui est difficile à imaginer en Occident. J'ai l'impression que tous les films que l'on fait, tous nos films, tous mes films... en France, prennent un coup de mièvre après avoir vu celui-ci. Le terrible, c'est pas que nos films paraissent mièvres, le terrible, c'est que ce film, Bouge pas, meurt, ressuscite, qui vous comble de joie, alors que c'est un film noir aussi, mais c'est un film qu'on n'arrive pas à trouver. Et c'est un film d'un cinéaste extraordinairement doué, qui a fait deux films de fiction dans sa vie, un documentaire, donc un cinéaste qui a été arrêté. Alors savoir qu'il y a tant de cinéastes médiocres qui n'arrêtent pas de tourner, et qu'un type comme Kanievski a pu faire deux films dont ce chef-d'œuvre incroyable, ça vous met un peu en rage.
Et le deuxième film qu'il a fait, c'était Une vie indépendante. Son documentaire, c'était Nous les enfants, oui, du XXe siècle. Et dans les trois, il y avait cet acteur formidable, oui, qui est Pavel Nazarov, oui, qu'il retrouvait après les années. J'ai repensé à votre relation avec Gérald Thomassin, moi, en voyant ce film-là.
Oui, oui. Je me demande d'ailleurs si ce garçon est encore vivant. Je parle de ce garçon russe.
Aux dernières nouvelles, il était en prison.
Il était en prison. J'ai cru que effectivement, Gérald est passé par la prison aussi. Mais oui, moi, j'avais quand j'ai écrit le dernier film là, CO2, que je suis en train de monter, il y avait un rôle pour lui et je ne lui en avais pas parlé. Et puis, il a disparu sur un quai de gare un jour. Et, on ne l'a jamais retrouvé, et on ne le retrouvera certainement, évidemment, jamais. Et donc, de poursuivre avec Gérald, alors que je n'ai pas le goût de... Je n'ai pas la prétention, en un film, de faire le tour des acteurs, mais d'un acteur, d'une personne. Mais Gérald, ce serait bien retourner une troisième fois. Alors, j'avais fait aussi un petit film pour Amnesty International à propos des enfants du Guatemala il y a une vingtaine d'années avec Gérald. C'était une parenthèse, donc j'avais envie de le retrouver une troisième fois et on s'est arrêté.
Mais j'espère que vous le retrouverez un jour, parce que nous on a très envie de le revoir. Merci beaucoup Jacques Doyon. Il y a tant de films encore dont nous aurions pu parler ensemble. Nos auditrices et auditeurs en auront un aperçu en allant sur la Cinéthèque découvrir la liste que vous avez concoctée. On y trouve évidemment la plupart des films dont vous nous avez parlé aujourd'hui. On peut aussi les retrouver en DVD pour la plupart, sauf précisément Bouge pas, meurs, ressuscite.
Oui, qu'il faut absolument trouver, regardez-le avec des sous-titres espagnols, c'est anglais, mais regardez-le dans une copie pourrie, peu importe.
Voilà, Mosfilm.
Voyez-le. Si l'heure passée avec vous m'a permis de trouver quelques spectateurs qui veulent bien me faire confiance et qui vont réussir à le trouver et à le voir, j'en serais absolument enchanté.
Absolument. Mosfilm, je crois, l'a mis en ligne, ça se trouve assez facilement, mais on espère qu'un éditeur vidéo va s'en emparer et nous proposer une très belle copie neuve, parce que l'image de ce film est magnifique. Pour en savoir plus sur Anthony Mann, sur Robert Bresson, sur Mizoguchi, sur Dreyer aussi, qui fait partie de vos cinéastes de chevet, on vous renvoie au plan large que nous leur avions respectivement consacré. Et puis en attendant de dédier une émission à John Cassavetes, nous vous recommandons chaudement deux parutions imminentes aux éditions Capricci, le livre de Muriel Joudet, Jenna Rollands, On aurait dû dormir, et le très beau Cassavetes par Cassavetes de Ray Carney, les deux chez Capricci. Toutes les informations sur la page plan large du site de France Culture se retrouveront sur cette page. Je m'embrouille. Et puis pour voir des films en ces tristes moments confinés, il y a aussi des festivals de cinéma. C'est irremplaçable de découvrir des films à plusieurs dans un festival, mais quand la situation sanitaire interdit leur tenue physique, certains se maintiennent en ligne, comme actuellement le Festival Nantais des Trois Continents, les Entrevues de Belfort, ou le Festival du film ethnographique Jean Rouche du Musée de l'Homme à Paris, et qui permettent aux spectateurs de voir nombre de leurs films sélectionnés en ligne. C'est toujours ça de gagner. Là encore, toutes les informations sont sur le site de France Culture à la page Plan Large. Ceci dit, il est temps auprès du Barbudo Entebbin de rejoindre les marais cubains au pied de la Sierra Maestra.
¿Dónde está Fidel? Fidel. Yo soy Fidel.
¿Dónde está Fidel?
Yo soy Fidel.
Yo soy Fidel.
Soy Cuba. He aquí los hombres sobre los que después se escribirán leyendas. Vienen de todas partes a la sierra. vienen a combatir.
Où est Fidel ? Demandent les soldats du dictateur Batista aux guerrieros qu'ils ont arrêtés. Je suis Fidel, répondent-ils tous avant que l'île de Cuba elle-même ne reprenne la parole. C'est Soy Cuba, film majeur de l'histoire du cinéma et pourtant mis sur l'étagère, comme on disait à l'époque. On a attendu près de 30 ans pour le découvrir au début des années 90. Il est signé de l'immense cinéaste soviétique Mikhail Kalatozov, cinéaste emblématique du dégel qui a suivi la mort de Staline. Il avait eu la Palme d'Or en 1958 à Cannes avec Quand passent les cigognes, et il s'est retrouvé à Cuba à la faveur d'une commande pour célébrer la jeune révolution castriste. Et il en tirera un poème flamboyant, complètement étourdissant, dont la vraie héroïne est peut-être avant tout la caméra, virevoltante du chef opérateur et vieux complice de Kalatozov, Sergueï Ouroussevski, et ses plans séquences totalement surréalistes qui laissent aujourd'hui encore pantois. Si Soy Cuba avait pu être montré au public en 1964, le cinéma du monde entier aurait été différent. C'est carrément exclamé Martin Scorsese quand il l'a découvert en 1992, Anne Tebbin.
Oui, alors c'est un film qui est un film monstre, puisque c'est un film unique dans l'histoire du cinéma, et c'est aussi un film monde, parce que c'est un film sur la vision par des cinéastes soviétiques à la faveur d'une conjoncture tout à fait improbable, d'une île qu'ils découvrent et qui est pour eux à la fois complètement exotique et à laquelle ils doivent, il faut qu'ils la fassent participer à l'élan révolutionnaire, puisque c'est ça la commande. Donc c'est à la fois une commande, mais c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que la commande, c'est que on donne à Kalatozov et à son opérateur et au poète scénariste Evtushenko carte blanche, c'est-à-dire ils ont des moyens illimités, non pas tellement en argent, mais en durée de tournage, c'est-à-dire ils vont plutôt que de tourner pendant 2 mois, ils vont tourner pendant presque 1 an et demi. Ils ont à leur disposition le décor de tout Cuba. À un moment donné, Kalatozov a besoin de 5000 figurants. Eh bien, il s'adresse à Raoul Castro, le frère de Fidel, qui va faire venir des soldats de tout le pays pour jouer dans le film. Il faudra même prévenir par radio qu'il ne s'agit pas de la guérilla qui revient, mais d'un tournage de film. Enfin, voilà. Et il a cette espèce de carte blanche, mais c'est un peu donnant-donnant. C'est-à-dire qu'on lui confie une sorte de plan quinquennal du cinéma, mais si ça ne plaît pas, eh bien, il risque de mal être exploité ou d'être mis, comme ça arrivera, sur une étagère. Donc, il va petit à petit, avec ses scénaristes, un scénariste cubain qui est Barnett et son poète scénariste soviétique, enfin russe, concevoir un film en 4 tableaux, absolument non narratif, mais qui est une sorte de, comme le dit Ouroussevski, l'opérateur lui-même, un mélange entre la Dolce Vita de Fellini, qui serait le monde d'avant la révolution castriste, et le Cuirassé Potemkin, qui est le grand classique du film révolutionnaire.
Et c'est précisément parce qu'il va montrer le monde d'avant la révolution, qu'il va avoir quelques soucis.
C'est-à-dire qu'il va avoir quelques soucis, je crois, en raison aussi beaucoup de sa forme. C'est-à-dire qu'on s'attend peut-être d'une part à une sorte de film réaliste sur l'insurrection d'un pays, peut-être d'autre part sur la célébration d'une communion entre l'Union soviétique et Cuba, et finalement on va avoir une sorte d'épopée qui est un spectacle total, et qui, notamment par ces plans qui vous embarquent, l'intéressant c'est que dès le début, on nous montre que Cuba est une île, ce qui est vrai, mais c'est une île qui est encore plus isolée par le blocus qu'a instauré Kennedy, et c'est une île dans laquelle on va, vous immerger. C'est-à-dire que l'utilisation des courtes focales et du plan, du plan où on voit tout, C'est une immersion totale, avec une caméra portée aussi, puisque c'est un film qui fait à la fois référence au cinéma moderne et d'une une caméra qui se faufile parmi la foule, et mais aussi tous les acquis du cinéma classique, avec des mouvements de grue et des tours de force, de machinerie absolument incroyable, notamment pour produire ces plans séquences ébouriffants, époustouflants, qui font partie des raisons pour lesquelles un Scorsese et un Coppola vont être éblouis.
Et pas que, puisque c'est un film étonnamment donc tourné au début des années 60, mais qui va avoir une influence majeure sur le cinéma américain des années 90.
Oui, alors il va avoir une influence parce que d'une part, c'est un film anti-américain, entre guillemets, puisque ça fait partie de la commande. Hein, c'est un film sur la libération de Cuba par la Révolution, ce qui est un aspect qui peut aujourd'hui faire un peu schématique, mais qui est très complexe, finalement, dans le film, parce que c'est un film non narratif, où c'est un film qui passe d'une histoire à l'autre, avec comme seule solution, enfin, comme seule continuité, si vous voulez, une sorte de langage poétique, qui est donné non seulement par la caméra, mais aussi par la forme, qui est la forme d'une sorte de comédie musicale, mais encore plus d'une sorte de film-opéra, qui avec un récitatif qui est cette voix lancinante, Soy Cuba, je suis Cuba, et puis qui répète comme ça les strophes en faisant une sorte de liaison d'un épisode à l'autre. Et aussi des numéros musicaux, puisque il y a vraiment ça, il y a des chansons, il y a des danses, ça n'arrête pas, et la caméra participe de cette chorégraphie. C'est pour ça aussi, je crois que ce sera un film qui est largement incompris. Incompris par les Cubains qui se disent « mais qu'est-ce que c'est que cet objet ?» C'est-à-dire, c'est comme si on les invitait à un spectacle de musique folklorique et qu'on leur montre un opéra contemporain. Ça fera que ce film va être quand même montré un tout petit peu. Il va avoir de mauvaises critiques à Cuba comme en Union soviétique, et il ne va pas du tout représenter, comme l'avait fait quand passent les cigognes, représenter l'URSS dans les grands festivals, etc. Il va être mis, comme vous l'avez dit, sur une étagère, et il va être découvert après avec ses splendeurs et ses merveilles qui aujourd'hui ont encore toute leur force.
Merci beaucoup. Entebbe, on l'aime d'un loco amor, comme on l'entend, d'un amour fou, ce Soy Cuba de Mikhaïl Kalatozov. Il est édité dans sa magnifique version restaurée en DVD et pour la première fois en Blu-ray chez Potemkin, ça ne s'invente pas, avec une foultitude de bonus et un livret de 80 pages qui recueille les lettres envoyées à sa femme pendant le repérage du film par son chef opérateur, l'immense Sergueï Ouroussevski. Il sort mardi prochain en DVD et en Blu-ray, en attendant sa ressortie en salle, on l'espère, le 20 janvier. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son Ludovic Auger. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Laurent Polleret. La semaine prochaine, c'est la cinéaste Patricia Mazui, après Jacques Doyon, qui se prêtera au jeu de l'autoportrait en cinéphile. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, Toute une vie, présenté par Christine Bernard.